7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le maire de Meaux.
Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. D'abord un mot sur ce qui se passe en ce moment même au nord de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan a lancé son offensive contre les Kurdes, lâchée par l'allié américain. Il y a déjà une quinzaine de morts, des milliers de personnes, de civils qui fuient les combats. Derrière le tollé et les indignations de circonstances, que peut et que doit faire la France ?
D'abord, il faut rappeler ce que c'est. Ça s'appelle tout simplement une trahison. Nous avons tous été bien heureux de trouver les alliés kurdes pour lutter contre à la fois les violences en Syrie et puis surtout contre les mouvements islamistes qui, ici et là, constituaient des dangers considérables. Bon. Voilà qu'aujourd'hui, les Américains ont donné une sorte de feu vert, d'une certaine manière, aux Turcs pour qui n'attendaient que ça pour attaquer les Kurdes. Vieille querelle séculaire, ultime et énième conséquence de cette folie qui a consisté, malgré les avertissements de Jacques Chirac, d'aller dans cette deuxième guerre du Golfe dont nous payons aujourd'hui encore les conséquences.
D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois qu'on a dit ça, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'on va, comme d'habitude, retrouver le train-train des instances internationales. Le Conseil de sécurité de l'ONU va être convoqué, se réunir aujourd'hui même. Et puis, on va faire une résolution, on va dire que c'est très très mal, qu'on condamne fortement.
Et donc ?
Mais pendant ce temps-là, les bombardements, vous l'avez vu, sont engagés.
Est-ce que la France peut faire quelque chose ?
Mais évidemment, il faut qu'elle le fasse. D'ailleurs, elle est à l'initiative et c'est une très bonne chose. Elle l'a été dans ce domaine d'ailleurs à chaque fois. Hein. Je me souviens très bien des initiatives qui avaient été prises à juste raison par le président Hollande. Et de la même manière, il faut que le président Macron aujourd'hui continue de faire porter la voix de la France très fortement, parce que cette trahison, c'est une faute politique, c'est une faute diplomatique et c'est une faute morale.
Jean-François Copé, il y a la question des djihadistes que les Kurdes retiennent pour l'instant. Trump dit, reprenez-les, ils sont français, gérez-les.
Ah, écoutez, ça c'est un débat qui est très difficile. C'est un débat qui est très difficile parce qu'en réalité, nous savons très bien les uns et les autres que sur ce sujet, on a une opinion publique qui est très inquiète et elle a raison de l'être. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement français doit, si jamais il doit reprendre quelques-uns d'entre eux, faire œuvre d'une très 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 grande fermeté.
Justement, au lendemain de l'attaque d'une synagogue en Allemagne et une semaine jour pour jour après l'attaque de la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a prononcé hier un discours de combat. Il a appelé à combattre l'hydre islamiste partout où elle se trouve. Y voyez-vous une inflexion plus ferme du président de la République, dans les mots en tout cas, alors, face à la radicalisation ?
D'abord, on ne peut pas mélanger les deux attentats, puisque, comme vous le savez, sur l'Allemagne, le peu d'éléments que nous avons laissent à penser que ce serait
l'extrême droite.
Donc nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Le seul point commun, c'est l'extrémisme. Car en réalité, la grande inquiétude qui aujourd'hui prédomine, c'est la montée des extrémismes sous toutes ses formes. Bon, pour celle qui, évidemment, nous a particulièrement préoccupés avec ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, Léa Salamé, c'est que c'est pas nouveau. Hein. Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on est un certain nombre à tirer la sonnette d'alarme. Nous autres qui sommes maires dans des villes qui avons des quartiers où des choses difficiles se passent, on peut pas dire qu'on ait été silencieux. Je me souviens quand même du tombereau d'injures que j'ai pu prendre lorsque j'ai pris un certain nombre de positions, comme beaucoup d'autres de mes collègues maires, sur ces sujets. Je me souviens de l'époque de la loi d'interdiction la burqa, je me souviens de sujets que nous avons mis sur la table, et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, ça bloque au niveau du périphérique. Voilà. C'est-à-dire que à l'extérieur du périphérique, tout le monde est d'accord, et dès qu'on rentre dans Paris, ça devient plus compliqué.
Est-ce que les choses changent aujourd'hui ? L'intérieur du périphérique.
Parce que c'est vraiment à l'intérieur du périphérique que ça se passe. J'ai envie de vous dire oui et non. Moi, j'ai trouvé que le discours du président de la République, il était remarquable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Le problème, c'est qu'on a derrière un gouvernement qui est quand même un peu hésitant, une majorité qui est un peu divisée, il faut bien le dire. On a entendu dire « Ah là là, mais est-ce que c'est pas un appel à la délation ?» C'est quand même un paradoxe. Il y a quelques mois...
La société de vigilance à laquelle appelle Emmanuel Macron.
On est bien d'accord. Écoutez, il y a quelques mois a été votée une loi pour permettre la délation en matière fiscale. Alors, on peut le faire en matière fiscale et on peut pas en appeler à la vigilance sur les dérives de l'islamisme radical, c'est-à-dire rien d'autre que l'instrumentalisation d'une religion à des fins de violence. Donc face à cela, vu l'ampleur de cette menace, on a eu l'attentat de la préfecture de police de Paris, mais on a aussi la vie au quotidien. Et ce sont des signes innombrables dans les écoles, dans les salles de sport, dans l'espace public, qui nécessitent que la nation tout entière se sentent un peu mobilisés, qu'elle ait des procédures pour pouvoir alerter les autorités.
Mais justement, comment les maires, et vous êtes maire de Meaux, comment les maires peuvent-ils participer à cette société de vigilance quand parfois ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant des fichiers S qui sont sur leur territoire? C'est ce que disait François Baroin hier, il donnait l'exemple d'un imam qui est installé dans sa commune, qui fait des prêches le vendredi, alors qu'il était fiché S sous surveillance judiciaire et le maire ne le savait pas.
Mais François Baroin, il a totalement raison et je pense comme lui, comme beaucoup d'autres, qu'il est pas, il est fou de ne pas s'appuyer sur les maires qui sont sur le terrain, les premiers relais de la République. Et moi, je regrette parce que, en plus, il y a une majorité à l'Assemblée, ils sont sûrement sympathiques, les nouveaux députés, mais le problème, c'est que comme on interdit maintenant aux maires d'être députés, bah, c'est hors sol, le débat à l'Assemblée, on sait plus de quoi on parle, parce que, quand on est à l'Assemblée aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir un quartier difficile, on n'a plus besoin de voir un électeur. Et c'est ça qui conduit à cette déconnexion. Donc, bien sûr, il y a une circonstance avec cette tragédie de la préfecture de police de Paris, je pense qu'il faut renverser la table. Il faut assumer une bonne fois pour toutes que la démocratie n'a jamais été écrite nulle part, qu'elle devait être faible. Il faut se battre contre toutes ces dérives, ces dangers qui, au quotidien, minent la sérénité des Français.
Autre sujet, vous êtes maire de Meaux depuis près de 25 ans, réélu à chaque fois, Jean-François Copé, et vous vous apprêtez à briguer un nouveau mandat. La République En Marche va présenter un candidat contre vous, les macronistes qui sont durs contre vous, avec vous, malgré le fait que vous ayez soutenu à plusieurs reprises les réformes d'Emmanuel Macron. C'est le mandat de trop, on va envoyer Copé au musée de la préhistoire, ai-je lu.
Alors, c'est là où je me dis que, bien que journaliste remarquable, vous êtes moins précise que d'habitude. C'est-à-dire que vous n'avez pas dû lire le démenti qui a suivi de la part de Stanislas Guérini, qui est le président de la République En Marche.
Oui, mais là, je parlais des marcheurs en Seine-et-Marne, dans votre département.
C'est une dame qui a cru devoir montrer qu'elle était déterminée et donc utiliser des mots qui n'avaient rien à voir avec la bienveillance macronienne. Et donc j'ai fait observer à Stanislas Guérini, qui a bien voulu l'entendre, que ça n'était pas convenable. Et il en est bien convenu d'ailleurs. Et du coup,
mais
qu'est-ce
après,
qu'il a fait?
Il en a bien convenu, mais il vous envoie quand même quelqu'un face à vous.
Ah bon, je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Je n'ai pas vu que Meaux était dans la liste des villes dans lesquelles il y avait des candidats investis.
Donc vous espérez
par Emmanuel Macron. C'est pas que j'espère, chacun fera comme il voudra. Moi je dis juste une chose, quand on va partir à la conquête d'une ville, avec l'étiquette en plus du président de la République, il faut quand même être vraiment sûr de faire un bon score. Sinon, ça porte atteinte à l'image du président de la République lui-même. Et surtout que moi, vraiment, je suis tellement sorti de la politique nationale pour me concentrer sur ma ville de Meaux, et par ailleurs, mon métier d'avocat, que je suis vraiment bien loin de toutes ces querelles.
Je vais vous y ramener deux secondes, à trois jours des élections internes.
Deux secondes, je veux bien faire un effort.
Chez les Républicains, vous soutenez Christian Jacob. À quoi sert un parti de droite dans le monde macroniste? Emmanuel Macron vous a siphonné 30% de vos électeurs aux dernières européennes. N'est-il pas le président qu'il vous faut?
Ah ben ça, moi j'ai dit que c'était le président de droite qu'on n'attendait plus. Donc c'est vous dire que je suis très
alors détendu là-dessus. Alors à quoi servent les Républicains une fois qu'on a dit ça?
C'est une excellente question. C'est aux Républicains, ce sera aux Républicains.
Vous y êtes toujours, c'est pour ça que je pose la question.
Mais ce sera aux Républicains de le démontrer après le désastre de la présidentielle et ces deux années d'errance lamentable qui ont atterri à 8% des voix aux européennes. Donc il y a tout à refaire, de fond en comble. Christian Jacob, s'il est élu, ce que je souhaite, parce qu'au moins il va rouvrir les portes et les fenêtres, il va remettre un tout petit peu de bienveillance, de positivité, il va rentrer dans une maison qui est cassée, hein, complètement, de l'intérieur. Et donc il faut tout reprendre à zéro.
Il faut des primaires en 2022, pour 2022?
On va déjà commencer par mettre la maison en état, et on aura le temps d'ouvrir ces débats-là. Enfin, ils auront le temps d'ouvrir ces débats-là, le moment venu, bien loin.
Pour
avoir des primaires, il faut déjà qu'il y ait beaucoup de candidats. Pour l'instant, on ne sait pas très bien qui est capable d'être candidat.
Jean-François Copé en forme ce matin. Merci, belle journée à vous.
Bonne journée.